Jean-Louis Barrault.
Feydeau est un auteur de génie. Je vis avec Feydeau. On peut vivre dans la tragédie et on peut envisager la tragédie sous l'angle de l'absurde. Eh bien, l'angle de l'absurde qu'a observé Feydeau est génial. C'est un grand poète du comique.
Ça peut pas faire de mal.
Dans tous les auteurs de génie, il y a un grain de folie. Il y a un grain de folie chez Claudel et il y a un grain de folie chez Feydeau, sûrement. Et il est d'une telle observation qu'on ne peut pas oublier Feydeau. Et je crois qu'il tient très bien sa place au milieu des plus grands.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
L'hôtel.
C'est juste, pardon, madame.
Vous rappelez mon nom, n'est-ce pas?
Oui, monsieur Bassin.
Bouzin.
Monsieur Bouzin.
Attendez, je vous donne ma carte.
Non, inutile, je m'en souviendrai, monsieur Bouzin. Pour la chanson, je pique des épingles.
C'est ça. Aucun homme jamais ne fut plus favorisé que lui par le destin. Il avait dans son jeu tous les atouts. La beauté, la distinction, le charme, le goût, le talent, la fortune et l'esprit. Puis le destin, voulant parachever son œuvre, il eut ce pouvoir prodigieux de faire rire. D'autres, me direz-vous, l'avaient eu avant lui et d'autres l'ont encore, ce pouvoir. Eh bien non. Ce que d'autres ont eu, ce que d'autres ont encore, c'est le don de faire rire. C'en est la possibilité. Mais lui, Georges Feydeau, ce qu'il avait en outre, et sans partage, c'est le pouvoir de faire rire infailliblement, mathématiquement, à tel instant choisi par lui et pendant un nombre défini de secondes. Ces mots sont ceux de Sacha Guitry, grand ami de Georges Feydeau, qui résume ici ce que fut la grande affaire de sa vie, le rire.
Je vous demande pardon, madame. Excusez mon indiscrétion, mais votre visage ne m'est pas inconnu. C'est pas vous qui chantez l'Eldorado, c'est moi qui suis le drapeau de la France.
Ah non, monsieur, non. Je ne suis pas artiste. Ah. Baronne du Verger.
Ah ben c'est pas ça alors.
Né à Paris en 1862, celui qui deviendra le maître incontesté du vaudeville écrit ses premiers textes à l'âge de 7 ans. Mozart, quoi. Il négligera d'ailleurs rapidement ses études pour se consacrer entièrement au théâtre. D'abord en tant qu'acteur, puis en tant qu'auteur et metteur en scène. Après quelques années d'errance, Georges Feydeau rencontre une série ininterrompue de succès. Tailleur pour dames, Un fil à la patte, Le dindon, La dame de chez Maxim's. Ces pièces aujourd'hui célèbres, souvent inspirées par sa propre expérience conjugale, lui assurent à l'époque un triomphe public unique. La critique est souvent plus divisée, reconnaissant le talent comique de l'auteur, mais dévaluant le genre dont il se réclame. Observateur lucide de la société de son temps, Feydeau bâtit des intrigues impeccables et scrute la nature humaine. Salué par certains comme l'héritier de Molière, il a même été considéré comme l'un des précurseurs du théâtre de l'absurde. Ce soir, à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, Happy Birthday to you, découvrons une partie de son œuvre, certaines de ses pièces les plus célèbres bien sûr, mais aussi des écrits plus méconnus, comme son unique nouvelle, laissée inachevée. Et pour lire à mes côtés, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir trois comédiens, trois amis. Cécile Brune, sociétaire de la Comédie Française, Florence Viala et Samuel Le Bihan. Commençons par l'une de ses pièces les plus connues avec laquelle il rencontre un succès notable en 1894. Un fil à la patte, une comédie en trois actes créée au Théâtre du Palais Royal à Paris et mise en scène pour la première fois par Feydeau lui-même. Ce vaudeville, qui demanda plusieurs années de travail à son auteur, contient une galerie de personnages hauts en couleur. Un osseur ruiné, une chanteuse suicidaire, une cocotte, un ami à la laine douteuse et bien d'autres encore. Comme à son habitude, Feydeau les met en scène dans des situations extravagantes, chacun étant le jouet de l'autre. Nous sommes à l'acte 1, scène 6. Fernand de Bois-Danguin est de retour chez sa maîtresse, Lucette, après une longue absence. Il souhaite rompre avec elle, car il a prévu de se marier le soir même avec une jeune aristocrate, Viviane. La nouvelle du mariage est publiée dans le journal, mais il ne sait pas encore de quelle manière lui annoncer. Le voici avec Lucette, donc, qui reçoit quelques amis à déjeuner.
Madame, c'est monsieur Ignace de Fontanet.
Lui ? Ah, c'est vrai, j'y pensais plus. Vous mettrez son couvert. Faites entrer.
Comment ? Tu as de Fontanet à déjeuner ?
Oh, je te plains.
Pourquoi?
Oh, il sent si mauvais.
Ah, ça c'est vrai qu'il ne sent pas très bon. Mais c'est un si brave garçon. En voilà un qui ferait pas de mal à une mouche.
Oui, ça encore, ça dépend de la distance à laquelle il lui parle.
Tu es mauvaise.
Oh, ma chère Divette, combien je suis aise de vous baiser la main.
Justement, Nini vous parlait de vous.
Oh, mais c'est bien aimable. Vous voyez, c'est imprudent de m'avoir invité car je prends toujours les gens au mot.
Mais j'y comptais bien.
Eh bien, ma chère amie, j'espère que vous avez été contente du brillant article du Figaro.
Je ne sais pas, figurez-vous, je ne l'ai pas lu.
Comment? Ah bien, heureusement que j'ai eu la bonne idée de l'apporter.
Voyons.
Tenez, là.
Donnez-moi ça. Donnez-moi ça.
Eh bien, qu'est-ce que c'est?
Non, ce n'est pas le moment de lire les journaux. On va déjeuner. On va déjeuner.
Ah, mais voyons, c'est ennuyeux puisqu'il y a un article sur moi.
Eh bien, je le range. Là, je le range. Non, mais tire-t-il ce journal? Tire-t-il?
Mais enfin, monsieur.
Monsieur.
Monsieur de Fontanet, un de mes amis. Monsieur de Bois d'Anguin, mon ami.
Ah. Ah, oh, enchanté, monsieur.
Moi de même, monsieur.
Je ne saurais trop vous féliciter. Je suis moi-même un adorateur platonique de madame Lucette Gauthier, dont la grâce, autant que le talent. Qu'est-ce que vous avez?
Rien. Vous ne trouvez pas que ça sent mauvais ici?
Non. Maintenant, vous savez, ça se peut très bien, parce que je ne sais pas comment ça se fait. On me dit ça souvent et je ne sens jamais.
Oh, mais tais-toi donc, voyons, c'est lui.
Hein? Ah, c'est... Ah, je vous demande pardon, je ne savais pas.
Quoi?
Rien. Pristi, qu'il ne sent pas bon.
Ah, à table, mes amis.
Restons en compagnie de Fernand de Bois d'Anguin dans un fil à la pâte, acte 2, scène 4. Après le déjeuner chez Lucette, Bois d'Anguin se rend chez sa future épouse Viviane, qui habite encore chez sa mère, la baronne du Verger. Il interrompt les deux femmes en plein dans les derniers préparatifs du mariage. Mais à peine arrivé, Bois d'Anguin voit débarquer encore Monsieur de Fontanet, l'homme qui sent mauvais, rencontré plus tôt donc chez Lucette. Très inquiet, Bois d'Anguin, à toutes les peines du monde, a empêché le visiteur de commettre un impair. Il faut absolument que sa liaison avec Lucette reste secrète.
Madame, il y a déjà un monsieur d'arrivée.
Déjà? Qui ça?
Monsieur de Fontanet.
Fontanet? Fichtre! Le bonhomme de ce matin.
Qu'est-ce que vous avez? Vous le connaissez?
Ah, moi, pas du tout.
Ah, je croyais. Émilie, priez Monsieur de Fontanet de venir nous retrouver ici.
Hein? Comment? Ici?
Ben, pourquoi pas? Je ne fais pas de cérémonie avec Fontanet.
Mon Dieu, et impossible de le prévenir, pourvu qu'il ne mette pas les pieds dans le plat.
Si monsieur veut entrer.
Ah, oh, bonjour, baronne, bonjour.
Oh, la bonne surprise, bonjour, ça va bien?
Comment? Vous ici?
Moi-même.
Hein?
Pas d'impair, surtout pas d'impair. Oh, ce cher Fontanet.
Vous le connaissez donc?
Corbleu, si je le connais.
Mais vous venez de nous dire...
Ah, parce que je ne savais pas que c'était lui que vous me parliez. Mais je ne connais que lui, ce cher Fontanet.
Comment? Pas plus tard que ce matin, nous avons déjeuné ensemble.
Hein, ce matin? Ah oui, oui, oui. Oh, si peu. Oh. Je n'avais pas faim, alors.
Tiens, où ça avez-vous déjeuné?
Eh bien, là-bas. Vous savez que... Ah, comment ça s'appelle déjà?
Chez la Divette.
L'idiot.
Chez la Divette.
Qu'est-ce que c'est, la Divette?
Ma chère Viviane... C'est un restaurant, le restaurant La Divette.
Mais qu'est-ce qu'il dit?
Comment, vous ne connaissez pas le restaurant La Divette?
Non.
Oh, dites donc, Fontanet, elles ne connaissent pas le restaurant La Divette.
Moi non plus.
Oh, ni vous non plus. Il va dans un restaurant, il ne sait même pas comment il s'appelle. Ah, oh, ce cher Fontanet, qui ne connaît pas le restaurant La Divette. Mais taisez-vous donc. Voyons, taisez-vous donc.
Et où le prenez-vous, ce restaurant La Divette?
Oh, je ne le prends pas.
Hein?
Où je le prends? Le restaurant La Divette. Belle maman me demande où je le prends.
Eh bien, où le prenez-vous?
J'entends bien. Quelle fichue idée on a eue de parler du restaurant La Divette.
Eh bien?
Eh bien voilà, c'est un peu loin.
Ah, ça ne fait rien.
Bon, eh bien, n'est-ce pas? Vous êtes sur la place de l'Opéra. Vous savez où c'est la place de l'Opéra?
Mais oui.
Bon, eh bien, vous vous mettez comme ça sur le refuge. Vous avez l'Opéra devant vous et l'avenue dans le dos. Vous voyez ça, hein? Bon. Alors là, vous vous retournez vivement, de façon à voir l'opéra dans le dos et l'avenue en face.
Ah, mais pardon. Il aurait été plus simple de commencer par là tout de suite.
Ah, ça, c'est vrai. Mais enfin, ça ne s'est pas trouvé comme ça.
Et puis, dites donc, vous savez, je vous demande ça. Mais au fond, ça m'est égal.
Oui. Ah, bien. Alors, inutile, hein, n'est-ce pas? Ouf.
Mais qu'est-ce qu'il a donc?
Ce qu'il y a de plus clair dans tout ça, c'est que vous vous connaissez. Je n'ai donc pas besoin de vous présenter le fiancé de ma fille.
Mais qui ça? Le fiancé de votre fille?
Mais lui, monsieur de Bollanguin.
Hein? Comment c'est lui qui... Oh, l'amant de Lucette! Oh là là, je comprends maintenant, le restaurant La Divette. Oh, comment, c'est vous qui... Eh bien...
L'animal, tiens.
Ah, 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 oh là là.
Mais qu'est-ce que vous avez?
Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose, il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous avez? Mais dites-le.
Non, mon pied. Oh là là, c'est vous, avec votre talon.
Moi, comment? Oh
là là, juste sur mon corps.
Ah, vous avez des corps, il a des corps. Oh, c'est laid, ça.
Oh, je ne sais pas si c'est laid, mais quand on vous marche dessus, c'est affreux.
Eh bien, vous sentez-vous mieux, monsieur de Fontanet?
Merci, mademoiselle Viviane, merci. Ça va un peu mieux.
Mais oui, ça ne l'empêchera pas de signer notre contrat quand maître Lantéry sera arrivé.
Ah, c'est maître Lantéry qui est votre notaire.
Oui, oh, très bon notaire.
N'est-ce pas?
Oui, il n'a qu'un défaut, le pauvre homme. Oh, ce qu'il sent mauvais.
Ah,
vous n'avez pas remarqué? Pfff, c'est insoutenable.
La pelle qui se moque du fourgon.
Jérôme Deschamps.
Feydeau, c'est extrêmement raffiné, complexe. C'est aussi très féroce. C'est un théâtre très lucide sur la société de son temps, qui n'est pas d'ailleurs sans rapport avec la nôtre, puisque c'est quand même une pièce où sont confrontées les histoires d'amour avec l'argent. C'est une petite Lucette, une petite chanteuse, très sincèrement amoureuse de ce bois d'Anguin. Et tous les gens qui sont autour sont dans la stratégie matrimoniale et financière. Et cet amour vole en éclats pour un peu d'argent.
Alors, madame m'a dit de vous rendre votre chanson.
Quoi? Elle l'a pas lu?
Si. Elle a dit, je suis franc, faut être franc. Qu'elle était stupide.
C'est très bien. Je vais porter cette chanson à Yvette Guilbert, qui sera moins difficile. Et elle a du talent, au moins, elle.
Comme vous voudrez, monsieur.
Stupide, ma chanson. Et moi, Guy. Soyez donc aimable. Bonjour, mon ami.
Bonjour, monsieur.
Madame Arthur, par Yvette Guilbert. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Pardon, disait Monsieur Prudhomme, mais de quoi donc vivait cette dame, ayant si grand train de maison, courant de l'opéra au drame, et soupant chaque soir, dit-on. Ah, ce qu'elle était pour toi le terre, habile à payer chaque mois, fournisseur et propriétaire, rien qu'avec son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Une autre farce conjugale à présent, avec un extrait de la pièce « Mais ne te promène-t-on pas toute nue ?» Une comédie en un acte représentée pour la première fois le 25 novembre 1911. L'histoire en quelques mots. L'épouse du député Ventroux a la fâcheuse manie de se promener en déshabillé chez elle, devant son fils et devant les domestiques. À chaque fois, cette attitude provoque la colère du parlementaire, très soucieux de son image et de sa carrière. Derrière le ridicule de la situation conjugale, Feydeau, amusé, dresse une satire plutôt acérée des mœurs politiques de son époque. Voici donc un extrait de cette pièce désopilante avec la scène 2, la querelle entre Clarisse et son mari Ventroux.
Quel
qu'est-ce que j'ai encore fait?
Oh, bah, rien, rien. Tu n'as jamais rien fait. Tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes.
Quand tu voudras m'expliquer.
Alors tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils.
Oh, c'est pour ça que tu me fais cette sortie. Eh ben vrai, j'ai cru que j'avais commis un crime, moi.
Alors tu trouves ça naturel?
Quelle importance ça? Auguste est un enfant, le pauvre petit. Une mère, ça ne compte pas. Si tu crois qu'il sait seulement ce que c'est qu'une femme.
En tout cas, ce n'est pas à toi à le lui apprendre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue?
Où ça, toute nue? J'avais ma chemise de jour.
C'est encore plus indécent. On te voit au travers comme dans du papier calque.
Ah, voilà. Voilà, dis-le donc. Voilà où tu veux en venir. Tu voudrais que j'aie des chemises en calicot.
Quoi, des chemises en calicot? Qu'est-ce qui te parle d'avoir des chemises en calicot?
Je suis désolée, mon cher, mais toutes les femmes de ma condition ont des chemises en linon. Je ne vois pas pourquoi j'aurais les miennes en madapolam.
Ah, bon, les voilà en madapolam à présent.
Ah ben merci. Qu'est-ce que diraient les gens?
Les gens, mais quels gens? Tu vas donc montrer tes chemises aux gens?
Moi, je vais montrer mes chemises aux gens. Tu m'accuses de montrer mes chemises aux gens.
Non, je ne t'accuse de rien du tout. Je ne te demande pas d'avoir des chemises en calicot ni en madapolam. Je te demande simplement, quand ton fils est dans ta chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui. Et puis d'abord, quel besoin as-tu de te mettre en chemise de nuit à 4 heures de l'après-midi?
Tiens, tu es bon, toi. On voit que ce n'est pas toi qui allais crever de chaleur au mariage de la petite du Chaumier.
Et tiens encore ça, pour qui y ai-je été, hein? C'est pour toi, c'est pas pour moi, bien sûr, pour t'épargner une corvée, comme toujours. Car enfin, ce n'est pas moi qui suis le collègue du père à la chambre. Je ne suis pas député, moi, c'est toi. Tu as une façon de me remercier.
Il ne s'agit pas de te remercier.
Oh, je sais, tout est dû.
N'empêche que quand je suis rentré, en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Et est-ce que c'est de ma faute si on voit au travers de ma chemise?
Non, mais c'est de ta faute si tu entres avec dans ta chambre.
Oh, non. Non, ça c'est le comble. Je n'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre maintenant. Où veux-tu que j'aille me déshabiller? À la cuisine? À l'office? Devant les domestiques? Ah, c'est pour le coup que tu crierais comme un putois.
Cette mauvaise foi dans la discussion.
Il n'y a pas de mauvaise foi. Me faire une scène parce que je suis entrée en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre?
Eh bien, j'étais là. Tu n'avais qu'à me la demander. Je te l'aurais apportée.
Ah, alors, c'était la même chose. Tu m'aurais vue toute nue.
Mais moi, je suis ton mari.
Eh bien, lui, c'est mon fils.
Non, non, c'est à se décourager. Alors, tu trouves que c'est pareil?
Mais, c'est plus près.
Oh!
En somme, toi, quoi? Tu es un étranger pour moi. Tu es mon mari. Mais c'est une convention. Quand je t'ai épousé, je ne sais pas pourquoi,
merci,
je ne te connaissais pas. Et crac, du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore devant qui on avait dit « Oui, c'était admis, tu me voyais toute nue. » Eh ben ça, c'est indécent. Tandis que mon fils, quoi, c'est ma chair, c'est mon sang. Eh ben, que la chair de ma chair voit ma chair, il n'y a rien d'inconvenant.
Enfin, qu'est-ce que tu veux me prouver? Qu'une mère a raison de se montrer en chemise à son fils?
Mais ce n'est pas là-dessus que j'en suis, ça t'est désagréable. Eh bien, c'est bon, tu n'as qu'à me le dire sans t'emporter, je ferai attention.
Oui, oh, tu feras attention. Tu sais très bien que non, tu peux pas ne pas te traîner en chemise, c'est plus fort que toi. Tous les jours, je t'en fais l'observation.
Mais je t'assure, non. Si tu me vois quelquefois comme ça le matin, c'est que ma toilette n'est pas faite. Mais une fois que je suis habillée, je te certifie...
Que tu n'es plus en chemise, oui, oh, ça c'est évident. Seulement tu ne l'es jamais habillée.
Enfin quoi, qu'est-ce que tu veux? Que je ne fasse pas ma toilette?
Mais fais-la ta toilette. Mais reste chez toi pour la faire. Et ferme la porte. Elle est toujours ouverte dans ces moments-là. Comme c'est convenable pour les domestiques.
Quoi? Ils n'entrent pas?
Ils n'ont pas besoin d'entrer pour te voir, ils n'ont qu'à regarder.
Si tu crois qu'un domestique, ça regarde.
Oui, oh, n'est-ce pas? C'est pas des hommes comme les autres. Non, mais c'est drôle, ça. Tu laisses ta porte ouverte quand tu fais ta toilette et tu t'enfermes pour mettre ta voilette.
Bah, qui veux-tu que ça regarde?
C'est effrayant, ma pauvre enfant. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la correction.
Oh, cite-moi un cas. Cite-moi un cas où j'ai été incorrecte.
Pas bien loin à chercher. Pas plus tard qu'hier, tiens, quand Deschanel est venu me voir.
Eh ben,
Il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté, que tu ne trouves rien de mieux à lui dire que... Oh, c'est curieux l'étoffe de votre pantalon. Qu'est-ce que c'est que ce tissu-là? Et tu te mets à lui ploter les cuisses. Tu trouves que c'est une tenue?
Eh ben, comment voulais-tu que je fasse? Je ne pouvais pourtant pas lui demander d'ôter son pantalon à ce monsieur que je voyais pour la première fois.
Ah, voilà, voilà. Mais tu pouvais te passer de tâter l'étoffe. Il me semble que Deschanel a un passé politique suffisant pour te permettre de trouver autre chose à lui dire que de lui parler de son pantalon, surtout avec geste à l'appui.
Tu parles de ma tenue. Eh ben, et la tienne? L'autre jour, au déjeuner sur l'herbe, avec Mademoiselle Dieu-Mamour.
Quoi? Quoi, Mademoiselle Dieu-Mamour?
Quand tu lui as sucé la nuque, tu trouves cela convenable?
Quand je lui ai... Oh non, non, quand les femmes se mêlent d'écrire l'histoire...
Quoi? Tu ne lui as pas sucé la nuque?
Si je lui ai sucé la nuque, évidemment je lui ai sucé la nuque, je lui ai sucé la nuque et je m'en vante. C'est tout à mon honneur. Elle avait été piquée par une mauvaise mouche. La piqûre avait un sale aspect, c'était déjà tout enflé, je ne pouvais pas la laisser crever du charbon par respect des convenances.
Du charbon? Qu'est-ce que tu en sais si la mouche était charbonneuse?
Je n'en sais rien, mais dans le doute, je n'avais pas à hésiter. J'ai fait ce que commandait la charité chrétienne. J'ai sucé.
Tout de même, moi, si j'avais été sucé la nuque à Monsieur Deschanel, ah ben merci, qu'est-ce que j'aurais pris pour mon rhume?
Oh, ben tiens, naturellement.
Quoi? C'est pas vrai?
Oui, là, oui, tu as raison, tu as toujours raison. C'est la dernière fois que je suce la nuque à Mademoiselle Dieu-Mamour.
Oh, oh, je ne te demande pas ça. Si elle est repiquée, cette malheureuse, ton devoir d'homme...
Là, hé, là, tu vois bien que tu es de mon avis.
Oui. Mais c'est qu'aussi, tu m'irrites, tu me dis des choses blessantes, que je me promène toute nue et que j'ai sucé la nuque à Monsieur Deschanel.
Je ne t'ai jamais dit ça.
Non, enfin que j'ai pincé des cuisses à Monsieur Deschanel.
Enfin, sapristi, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de te faire des observations.
Je ne dis pas le contraire, mais tu peux me les faire gentiment.
Eh bien, soit gentiment, là. Je te supplie de ne plus te promener toujours en chemise comme tu le fais.
Eh bien, oui. Dis-moi ça comme ça.
À la bonne heure. Voilà comme j'aime à t'entendre parler.
Tu vois comme je suis raisonnable quand tu veux.
Non.
Qu'est-ce qui fait que Feydeau est toujours un auteur à la mode?
Jean-Pierre.
Il correspond à la définition de Molière, c'est-à-dire corriger les mœurs des hommes en les divertissant. Et c'est un grand divertisseur, c'est un homme qui fustige une époque qui est soi-disant la belle époque, et en réalité, il montre la mufflerie bourgeoise sous toutes ses formes.
Oui, mais les situations bourgeoises dont il se moque ne sont plus les mêmes, tout de même.
Oh, c'est une évolution. Je crois que si, la mufflerie des hommes vis-à-vis des femmes, elle existe toujours, puisque le féminisme est maintenant, non pas triomphant, mais en tout cas en marche. Parce que justement, les hommes ont peut-être été excessifs vis-à-vis des femmes. Et c'est cette dénonciation-là qui a chez Feydeau.
Avant les grands succès de ses pièces, Georges Feydeau fait ses armes grâce à un genre très à la mode, le monologue. Les monologues de Feydeau sont très comparables à ses comédies, autant par ses thèmes que par les situations absurdes et le comique grinçant qui font leur succès. La liberté verbale dont bénéficie le monologue a souvent permis à Feydeau d'aller jusqu'aux limites extrêmes de sa fantaisie. La naïveté du récitant lui sert souvent de prétexte pour faire une satire de la réalité contemporaine. La preuve avec « Les célèbres », un monologue dans lequel il n'hésite pas à remettre en question les réels mérites de certains hommes illustres.
Les hommes sont bêtes, 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 ne m'en parlez pas, tenez, je souffre. Oh, Pascal a bien dit « l'homme est un roseau ». Oui, un roseau, c'est-à-dire une chose bête, bête, bête. Oh, c'est que Pascal, c'était un homme crâne, lui, avec son air de bon apôtre. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours l'agneau Pascal, ne vous y fiez pas. Oui, l'homme est bête, bête, bête. Enfin, regardez-le, lui, être faible, il fait des célébrités. Et qui choisit-il pour cela? Toujours des gens connus. C'est bien malin. Comme ça, il n'a pas la peine de les chercher. Enfin, quelles sont-elles, ces célébrités? C'est Franklin, Gutenberg, Christophe Colomb. Christophe Colomb, je vous demande un peu. Oui, je sais bien qu'il a découvert l'Amérique. Mais quoi? Puisqu'elle existait, il n'avait qu'à y aller. Ouais. Mais alors, vous trouvez toujours des gens qui vous disent « Permettez, c'est que pour Christophe Colomb, l'Amérique était inconnue. Alors, c'est une découverte. » Eh ben, quoi? Vous croyez peut-être que je la connais, moi? Alors, avec ce raisonnement, si j'y allais, ce serait une découverte?
Les hommes sont bêtes, bêtes, bêtes. Ne m'en parlez pas, tenez, je souffre. C'est comme Parmentier, un nom de potage. Pourquoi est-il connu, je vous demande un peu? Parce qu'il a rapporté des pommes de terre. Ben, c'est bien malin. Mais mon concierge en fait autant chaque fois qu'il va à la halle. Et puis quoi? Qu'est-ce que ça prouve? C'est qu'il les aimait. C'est étonnant comme il y a des gens qui sont célèbres pour peu de choses. Eh bien, figurez-vous, je parlais de ça dernièrement avec un de mes amis, un botaniste. Eh bien, il trouvait que Parmentier était un grand homme. Encore un malin, ce botaniste. Croyez-vous qu'il ne connaissait même pas les différentes espèces de pommes de terre? Je lui ai demandé quelle différence il y avait entre les pommes sautées et les pommes frites. Il n'a jamais pu me le dire. Et on appelle ça un botaniste. Non mais tenez, pour en revenir à ce que nous disions, encore un intrigant, c'est Franklin. Enfin, pourquoi est-il célèbre? Parce qu'il a inventé le paratonnerre? Bon, qu'est-ce que c'est que le paratonnerre? Un machin qui a pour but de vous garantir du tonnerre. Eh bien, prenez trois maisons, mettez un paratonnerre, c'est toujours sur le paratonnerre qu'il tombera. Hein? Et vous croyez que c'est pas se moquer du monde? Oh non, les hommes sont bêtes, bêtes, bêtes! Ne m'en parlez pas, tenez, je souffre! Mon fils voulait être auteur. Je l'en ai empêché. Je lui ai dit, mon fils, je comprends qu'on fasse du théâtre que lorsqu'on s'appelle Augier, Labiche ou Dumas. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais mon père, ils ne sont pas toujours appelés Augier, Labiche ou Dumas. C'est d'un naïf. Mais toujours, mon fils, depuis leur naissance. Alors il a cru me coller en me disant, cependant, si leurs parents les avaient empêchés d'écrire... Mais je lui ai répondu, mon fils, soyez persuadé que leurs parents les auraient empêchés d'écrire s'ils ne s'étaient pas appelés Augier, Labiche ou Dumas. Ça l'a cloué. V'lan.
Sacha Guitry aimait comparer les pièces de Feydeau à la machinerie d'une montre, avec ses roues dentelées, ses petits ressorts et ses propulseurs.
Le rire ne peut venir que si la pensée se développe à une certaine vitesse. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, par exemple, encore...
Jérôme Deschamps.
Hier, voilà, les acteurs pouvoir jouer très, très bien une scène. Et en fait, il faut la jouer juste un peu plus vite pour ne pas permettre au spectateur de reprendre son souffle.
Continuons donc à découvrir cette mécanique si particulière avec un grand, grand succès public, un autre, Le Dindon. Une pièce en trois actes datant de 1896 et qui a fait l'objet de près de 275 représentations à l'époque de sa création. C'est sans conteste l'un des meilleurs textes de Feydeau. On y suit les déboires conjugaux de plusieurs couples, les Vatelin, les Pontagnac et les Soldignac. Pour faire simple, la très prude Lucienne Vatelin est courtisée par Pontagnac, un séducteur notoire, ami de son mari, Vatelin, qui lui-même trompe sa femme avec Maggie, une Anglaise mariée à un businessman nommé Soldignac. Si vous avez compris, c'est champagne. Eh bien, en bon maître de la langue et du rythme, Feydeau orchestre ses personnages loufoques avec un sens inouï de l'ironie. La preuve avec cet extrait de l'acte 1. Vatelin se trouve tranquillement chez lui avec sa femme, quelqu'un sonne, il ordonne à son domestique de faire entrer le visiteur, et c'est en fait une visiteuse. Maggie, sa maîtresse qu'il a rencontrée à Londres, est de passage à Paris et veut le voir. Paniqué, Vatelin fait tout pour se débarrasser d'elle avant que Lucette ne la voie.
Oh my love!
Hein? Qu'est-ce que c'est? Madame Soldignac, Maggie, vous?
Moi-même!
Vous? Vous ici? Mais c'est de la folie!
Pourquoi?
Eh bien, et long.
Je l'ai quitté.
Et votre mari?
J'ai amené Louis. Il venait pour affaire à Paris.
Allons bon. Mais qu'est-ce que vous venez faire?
Comment est-ce que je viens faire? Oh, Ingrid. Oh, you naughty thing. How can you ask me what I have come to do here? Here is a man for whom I have sacrificed everything. My duties as a wife, my conjugal faithfulness. I leave London, I cross the sea, all this to reach him. And when at last I find him, he asks me, what have you come here for?
Mais ce n'est pas ça que je vous demande. Vous me parlez anglais, je ne comprends pas un mot. Comment êtes-vous ici? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez?
Qu'est-ce que je veux? Il demande qu'est-ce que je veux. Mais je veux vous.
Moi?
Oh yes, parce que je vous aime toujours, moi. Oh dear me, pour trouver vous, j'ai quitté London. J'ai traversé le Manche qui me rend bien malade. J'ai eu le mal de mer. J'ai rendu. Comment disait?
Ça suffit. Après.
Non! J'ai rendu l'âme. Mais ce m'est égal. Je disais, je vais le voir, Louis. Et je suis là pour 8 jours.
8 jours? Une semaine? Vous êtes là pour une semaine?
Oh oui, une semaine tout pour vous. Oh, dites-moi que vous me aimez encore. Tell me you love me.
Mais oui, mais oui.
Oh, Crépine, que je suis heureuse. Vous venez me voir cette soirée, eh?
Hein? Permettez.
Oh, ne dis pas non. J'ai trouvé cet matin un petit rez-de-chaussée tout meublé, comme je disais à vous dans la lettre que je l'ai mise à la panier, 48 rue Roquepine.
Vous êtes descendu rue Roquepine?
Oh non. Avec ma mari à l'hôtel Chatham. Mais le rez-de-chaussée, c'est pour nous deux. Je l'ai loué et vous viendrez cette soir. Et...
Moi? Ah non, par exemple.
Non. Pourquoi non?
Ben parce que c'est impossible. Est-ce que je suis libre? J'ai une femme, moi. Je suis marié, moi.
Vous êtes marié?
Madame.
Oh! À London, vous disiez que vous étiez bœuf.
Comment bœuf? Ah, veuf!
Oh, veuf, c'est la même chose.
Ah, mais non, c'est pas la même chose, merci. Le veuf, il peut recommencer, tandis que le bœuf...
Well, pourquoi vous m'avez dit?
Eh bien, oui, j'étais veuf, puisque j'avais laissé ma femme à Paris. C'est une façon de dire...
Alors, what? C'est fini ensemble?
Voyons, Maggie, soyez raisonnable.
Ah, oh! Crépine ne me aime plus.
Mais taisez-vous donc, ma femme peut vous entendre.
Ça m'est égal.
Oui, mais pas moi, voyons, je vous en supplie, un peu de raison. Certainement, je suis très touché, mais enfin, ce roman ébauché à Londres n'avait jamais dû être éternel. Quoi? J'avais fait votre connaissance pendant la traversée, vous aviez le mal de mer, j'avais le mal de mer, nos deux cœurs étaient si troublés qu'ils étaient faits pour se comprendre. Ils se comprirent. À Londres, vous vînt de me voir tous les jours à mon hôtel, je fis la connaissance de votre mari, avec qui je me liai, et ce qui devait arriver, arriva. Eh bien, contentons-nous de nous rappeler ce beau temps-là sans essayer de le recommencer. Oubliez-moi. Il y a d'autres beaux hommes que moi à Londres.
Oh non, je pouvais pas. Je suis une femme fidèle. J'ai eu un amant, je n'en aurai pas d'autre.
Allons, voyons, fidèle. Oui, jusqu'à un certain point, car enfin, votre mari...
Alors, Crépine, vous voulez plus moi?
Mais voyons, rendez-vous compte.
Well, adieu, Crépine.
Adieu, chère madame, adieu. Par ici.
Ah, je me doutais de cette chose, quand je ne recevais pas de réponse à mes lettres. Aussi, je avais déjà préparé un écrit pour mon mari. Je vais l'envoyer à lui. Goodbye, dear. Forget me. I'm only a guilty wife, who has now nothing left but death. I have been Mr. Butlin's mistress, 28 Trimmel Street, who has forsaken me, and now I will... Kill myself.
Eh bien, ça me paraît très bien. Envoyez-lui ça. Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous comprends pas? Oh. Adieu, cher. Oubliez-moi. Je suis qu'une femme coupable qui a plus qu'à mourir.
Hein?
J'ai été la maîtresse de Monsieur Vatelin, 28 rue Trimmel.
Hein, quoi? Monsieur Vatelin? Eh bien, en voilà une idée. Et avec mon adresse?
Il m'a... Comment dit-on en français? Il a plaqué, moi, yes. Et je me suicide.
Mais c'est fou. Vous allez pas lui envoyer.
Oh, yes.
Mais jamais de la vie. Vous tuez, vous. Et mon nom, mon adresse. Maggie, ma petite Maggie. Mais c'est insensé, voyons. Maggie, vous ne ferez pas cela.
Alors venez cette soir, 48 rue Roquepine.
Mais puisque je vous dis que je ne peux pas, quel prétexte donner à ma femme?
Non, Eh bien, je me suicide.
Oh, mon Dieu. Eh bien, oui, là, j'irai.
Oh, je suis tout content. Crépine, je te aime.
Oh, ben, mon Dieu, je te voudrais ça.
Je l'espère bien.
Tu peux me demander ce que tu veux, hein.
Je vais le faire.
Hein? Amélie, pendant mes 28 jours, elle va s'embêter.
Oh,
comment,
oh? Ah, oui, si, elle va s'embêter.
Il y a bien les copains, mais je les connais. C'est des cochons.
Oh, c'est des cochons.
Alors, toi, qui n'es pas un cochon, pendant que je ne serai pas là, occupe-toi d'Amélie.
Moi?
Oui.
Voici un extrait d'une des pièces les plus drôles de Fedot dont certains critiques à l'époque ont pu souligner l'immoralité. « Occupe-toi d'Amélie », une pièce en trois actes, représentée pour la première fois en 1908 au Théâtre des Nouveautés. Marcel apprend qu'il ne pourra toucher l'héritage de son père que lorsqu'il se mariera. Trop impatient de disposer de cette fortune, il annonce à son parrain qu'il va bientôt épouser une certaine Amélie, qui est en fait la maîtresse de son meilleur ami Étienne. Comme Lucette Gauthier dans Un fil à la patte, Amélie Pochet est une cocotte, fille d'un gardien de paix et ancienne femme de chambre. Mise au courant de ce mariage fictif, Amélie décide d'aider son amie. Mais entre-temps, Étienne, devant s'absenter quelques jours, confie sa belle au bon soin de son ami Marcel, le priant de s'occuper d'elle.
Alors, je peux compter sur toi. Jurez, je m'occuperai d'Amélie.
Nous sommes à l'acte 2, scène 1, au lendemain d'une soirée bien arrosée. Marcel se réveille dans son lit et découvre qu'il n'a pas dormi tout seul.
Oh, que je suis fatigué! Oh, tout de même, il est midi. Et midi, c'est une heure. Mais non, midi, c'est pas une heure, c'est midi. Oh, je sais plus ce que je dis. Je dors à moitié. Dire que si Paris était aux antipodes, il serait seulement minuit. Mes chaussettes. Qu'est-ce que j'ai fait de mes chaussettes? Oh, les voilà. Midi et demi. J'ai un rendez-vous à 11h, si j'ose y être. Allons, courage. Oh, comme il fait déjà jour. À midi et demi. Eh bien. Et la bonne? Qu'est-ce qu'elle fait, la bonne? Qu'est-ce qu'elle attend pour m'apporter mon chocolat? Allons d'un chien, qu'il fait froid. Oh, et puis zut. Je déjeunerai dans mon lit et je me lèverai après. Hein? Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, qu'est-ce qu'il y a donc? Oh, Amélie!
J'ai froid.
Amélie, c'est Amélie. Mais comment es-tu là?
Hein? Oh, zut!
Ah, mais non, il s'agit pas de dormir. Amélie, Amélie, au nom du ciel. Mais réveille-toi, nom d'une brique!
Mais qu'est-ce qu'il y a, quoi? Hein? Oh, tiens, Marcel!
Eh oui, Marcel, oui, Marcel!
Oh, comment es-tu là, toi?
C'est toi à qui je le demande!
Quoi?
Mais qu'est-ce que tu fais chez moi, dans mon lit, avec une chemise de nuit à moi?
Je suis chez toi. Oh, tiens, c'est vrai, comment que ça se fait?
Mais c'est ce que je te demande, Crénon!
Est-ce que...
Quoi?
Est-ce qu'on aurait couché ensemble?
Crénon, cochon de sort, ça m'en a tout l'air. C'est pas une farce que tu m'as faite, non? Tu n'es pas venu tout à l'heure.
Mais non.
Alors, y a pas. On a bel et bien couché ensemble.
Mais oui.
Mais c'est épouvantable. C'est un abus de confiance. Je t'ai reçu en dépôt.
Ah bah, mon colon.
Mais qu'est-ce que je dirais, moi, à Étienne, quand il me le demandera?
Oh, mais tu ne lui diras pas.
Mais je sais bien. Mais ce sera un poids d'autant plus lourd pour ma conscience, au moins en avant tout.
Tu ferais de la peine à Étienne.
Oui, mais elle serait soulagée.
Qui?
Ma conscience. Oh, comment avons-nous fait ça?
Ben, je ne sais pas, je ne me rappelle pas.
Étienne, mon meilleur ami, lui qui m'avait dit si affectueusement, en partant, « Occupe-toi d'Amélie, je te la confie, parce qu'avec toi, au moins, je suis sûr d'elle. »
Oui, ce qui d'ailleurs est un peu mufle, ça prouve qu'il n'avait pas grande confiance en moi.
Et comme il avait raison.
Je te dis pas, mais c'était pas à lui de le prévoir. Ça me justifie jusqu'à un certain point.
Ah, toi peut-être, mais pas moi. Ah, pourquoi est-il mon meilleur ami? Car enfin, il ne serait pas mon meilleur ami. Regarde, comme ce serait simple. Je ne serais plus qu'un monsieur qui a passé une nuit avec une dame. Et ça, ça se voit tous les jours.
Sans compter qu'on ne l'aurait pas passé ensemble la nuit.
Ah?
Car n'étant pas le meilleur ami d'Étienne, il ne t'aurait pas dit « occupe-toi d'Amélie ».
Mais oui, mais alors, au fond, c'est de sa faute tout ça?
Mais absolument! Est-ce qu'on confie sa maîtresse quand elle est jolie et jeune à un monsieur?
Jeune et jolie.
Enfin, pas mal.
Oh, et puis zut aussi, hein. Est-ce que j'ai une gueule de tuteur? Pour qui me prend-il? Pour un eunuque? Est-ce qu'il s'imagine que je n'ai pas un tempérament tout aussi bien que lui? Est-ce qu'il n'a pas couché avec toi, lui?
Tout le temps?
Eh ben alors?
Eh ben alors?
Pfff.
Au
ouvrons maintenant une page spectacle, création ou reprise plutôt sur les scènes parisiennes. Mercredi, le théâtre de France Odéon reprend Occupe-toi d'Amélie de Feydeau avec Madeleine Renaud à qui Lisélina a rendu visite dans sa loge.
Madeleine Renaud, nous nous réjouissons de vous revoir dans Amélie car le rôle d'Amélie d'Occupe-toi d'Amélie n'est pas neuf pour vous puisque vous l'avez créé il y a quelques années, très peu de temps, je crois, dans la compagnie Jean-Louis Barrault à Paris. Pouvez-vous définir le personnage d'Amélie? Est-ce qu'Amélie tient place dans notre époque, d'abord?
Eh bien, oui, parce que ce que j'aime dans Amélie, c'est qu'elle est gentille. Elle est non seulement populaire, mais elle est gentille. Elle a du cœur, elle est franche, elle se laisse aller, elle se met en colère. Elle serait capable d'aimer vraiment. Si ça avait été possible, elle aurait aimé Marcel Courbois. Et mon Dieu, elle aurait peut-être fait une femme très fidèle. Mais ce sont de ces parisiennes, que nous pouvons dire parigotes, qui me plaisent et qui me touchent particulièrement.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
De lecture, ça peut pas faire de mal.
Derrière le rire peut se cacher le drame. Voici un texte étonnant écrit par Feydeau, l'ami Carême. C'est la seule nouvelle retrouvée dans les manuscrits inédits de l'auteur. On y découvre un Feydeau dramatique qui témoigne une vision particulièrement désespérée de la condition humaine. Ici, il met en lumière la souffrance de l'homme sous le masque du rire. On pense à la phrase qu'il aurait écrite à son fils Michel : le comique, c'est la réfraction naturelle d'un drame.
C'est mi-carême. Sur le boulevard, l'encombrement est énorme. Dehors, les masques gouailleurs qui traversent la cohue en vainqueur, la foule grouillante qui les suit et se bouscule, toute cette masse humaine soulève dans l'air une lourde rumeur qui envahit la tranquillité de vos appartements clos, tandis que le son rauque des corps vous jette comme un appel désespéré. Allons, bon gré mal gré, il faut céder. Et bientôt, vous vous trouvez mêlé au tout Paris qui s'amuse. À un moment, vous êtes ahuri. La foule est compacte et vous avez peine à vous faire place. Dame, vous n'êtes pas costumé, vous. L'on ne vous doit point d'égard. Digne et fier, avec la suffisance d'un grand premier rôle qui a conscience de sa valeur, le masque joyeux promène à travers la masse son déguisement fait de quelques oripeaux défraîchis dont les couleurs bariolées et les paillettes dorées lui donnent des illusions de richesse. Les gamins le suivent, applaudissant à son succès et poussant des cris d'admiration qui chatouillent son amour-propre. Puis passe un masque encore mieux mis que lui, et soudain la bande d'alouettes vole au miroir qui brille davantage, et il se voit ravir d'un seul coup tous ses adulateurs. Tout près, ce joyeux couple qui s'avance, bras dessus, bras dessous. L'homme a sur le visage un masque grotesque de carton. À la mise, vous reconnaissez facilement un ménage d'ouvrier. Lui est plombier, elle est blanchisseuse. Dans le ménage, on gagne peu. Mais on est jeune et l'on aime bien à s'amuser. Aussi, l'on a tenu à célébrer la mi-carême, tout comme un autre. Pas de costumes somptueux, pas de velours et de dorures. Tout cela coûte trop cher. Le matin, l'on s'est pris par le bras et gaiement, on s'est rendu au bazar le plus proche. « Avez-vous un masque bien comique pour moi ?» avait demandé le jeune plombier. Et l'on s'était mis à farfouiller dans tous ces masques en carton, les essayant les uns après les autres, hésitant et se concertant. Enfin, l'on s'était arrêté à une bonne figure de jocrisse dont les yeux étaient louches, dont la bouche riait niaisement jusqu'aux oreilles et dont la trogne articulée serpentait ridiculement dans l'air. « Et pour madame ?» avait demandé le commis. Oh, moi je n'en prends pas. Et la petite blanchisseuse avait laissé tomber des grands yeux doux, pleins de tendresse sur son époux. Puis, l'on était parti. Mais soudain, un cri strident, horrible, désespéré retentit au milieu de la masse. La foule curieuse se précipite, un grand rassemblement se forme, et au centre, un omnibus arrêté domine la cohue. Qu'est-ce ? Badaud comme un Parisien, je me glisse tant bien que mal au milieu de l'attroupement, je m'informe. L'on m'apprend qu'une jeune femme vient d'être écrasée par l'immense véhicule. Saisie d'horreur, mais obéissant à cette curiosité instinctive qui vous attire vers ce que vous ne voudriez pas voir, je regarde. Horreur. Cette femme, étendue, sans connaissance, les chairs ensanglantées, c'est la petite blanchisseuse. Un homme en douleur, la tête plongée contre le sein de la jeune femme, pousse des cris qui vous déchirent le cœur. Soudain, il relève la tête. « Oh, ma femme !» s'écrie-t-il éperdu. Et la foule atterrée aperçoit, spectacle plus sinistre encore, une face grotesque, dont les yeux étaient louches, dont la bouche riait niaisement jusqu'aux oreilles, et dont la trogne articulée serpentait ridiculement dans l'air.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Jean-Louis Deloncle. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura El-Maki, Marie-Claire Maout et Irène Menahem.